L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine L'EM, qui vous fait entendre le Finistère. Pour de vrai, avec des vrais gens, avec des gens qui viennent souvent parfois, comme l'équipe du CIVAM, le réseau paysan du Finistère. Alors le mois dernier, on s'est penché avec le CIVAM sur une étude à laquelle a participé l'association, enfin le CIVAM du Finistère, l'injuste prix de l'alimentation. En fait, il s'agit de se pencher sur ce que coûte vraiment le système de production et de distribution alimentaire tel qu'il existe. On ne regarde pas seulement l'étiquette du prix des aliments. Et il s'agit aussi de remettre en question le système parce qu'on a d'un côté des producteurs, des productrices qui n'arrivent pas à se payer correctement et de l'autre, les personnes avec très peu de ressources qui ne peuvent pas vraiment s'alimenter correctement. Il y a les questions des politiques publiques. Où vont les aides publiques? Elles vont au système comme il ne va pas. En grande majorité en tout cas. Un chiffre, un seul, sur les 8,6 milliards d'aides fiscales au système alimentaire et agricole, seulement 112 millions d'euros soutiennent des systèmes agricoles qui respectent l'environnement et la santé des gens, comme ceux que défend le CIVAM, représenté aujourd'hui par Violette Divet, qui est animatrice coordinatrice. Bonjour.
Bonjour.
Et au téléphone, on a Frédéric Pellé, qui est responsable de VRAC 29. Bonjour.
Bonjour.
On va revenir sur ce qu'est VRAC 29, mais d'abord, peut-être Violette, quelles sont les recommandations de l'étude? Parce que le CIVAM, dans la publication, enfin le CIVAM et ses partenaires, il y a quand même quelques pages de recommandations sur l'injuste prix de notre alimentation à la fin.
Oui, tout à fait. En fait, l'étude, elle est venue finalement rassembler tout un tas de solutions qu'on connaît déjà. Il n'y a rien qui a été réinventé, mais en tout cas, ça a le mérite de mettre ça en lumière, notamment parce que vraiment, des messages clés de l'étude, et tu l'as dit, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'argent public en fait, qui est mis sur la table et qui n'est pas orienté. Donc finalement, il y a beaucoup de ces recommandations qui vont là-dessus. Donc beaucoup au niveau national, dans un premier temps, avec des propositions pour massifier la transition agroécologique, des propositions aussi pour réguler le commerce international, c'est d'actualité.
Ah bah oui, là.
Voilà. Mm-hmm. Et notamment pour limiter l'importation des produits qui sont néfastes pour l'environnement et pour la santé et qui permettent aussi de répondre à l'équation de la juste rémunération des producteurs en les protégeant d'une concurrence féroce. Il y a aussi tout un tas de propositions sur la question de la démocratie alimentaire et de l'accès financier à des produits de qualité parce que on entend que certaines actions peuvent amener à une augmentation des prix agricoles et alimentaires de qualité. Et donc la question, c'est de savoir comment on fait en sorte pour que les gens y aient toujours accès. Et en fait, ça se décline à la fois au niveau national et au niveau local. Mais il y a plein d'initiatives en fait, qui existent aujourd'hui là-dessus pour justement permettre l'accès à une alimentation de qualité. Je pense aujourd'hui notamment à la multiplication des initiatives de caisses alimentaires communes qui sont en fait inspirées directement de la sécurité sociale. Et qui serait une déclinaison en fait sur la sécurité sociale de l'alimentation à un niveau local.
Donc, alors, il y en a une à Montpellier par exemple, je crois.
Oui, c'est ça.
Comment ça fonctionne en gros? C'est quoi l'idée?
Eh ben, peut-être que Frédéric pourra nous en dire un petit peu plus, mais en gros le fonctionnement, c'est de mettre en commun des moyens. Donc chacun contribue à un pot commun tous les mois et chacun en fonction de ses besoins touche ensuite de l'argent pour aller faire des achats soit dans des lieux, soit pour des produits qui auront été choisis collectivement par le groupe.
C'est géré par une association ou par la collectivité ?
Pour le moment, les caisses alimentaires, elles sont gérées par des collectifs citoyens. Beaucoup, quand même, sont soutenus par les collectivités. Mais ça, après, si ça se multiplie et ça s'étend à l'échelle nationale, ce sera des vraies questions de débat.
Et d'ailleurs, les collectivités ont aussi un rôle à jouer. Enfin, dans le rapport, il est pointé le fait que tout ce qui est restauration collective est un levier pour permettre à des gens très pauvres d'accéder à une alimentation de qualité. Ça, ça se fait un peu. Enfin, il y a des ébauches de systèmes. Enfin, bon, là, aujourd'hui, par exemple, alors c'est pas spécialement à destination des personnes sans ressources, mais je vois que la mairie de Port-Launay, en fait, aujourd'hui, elle ouvre sa cantine ce jour-là, ce mardi. Enfin, non, c'était mardi prochain, pardon. Donc, voilà. Alors, c'est pour les grands-parents, c'est plutôt pour faire de l'intergénérationnel, mais on pourrait imaginer que les cantines scolaires soient ouvertes à des gens en grande précarité.
Oui, il y a des initiatives qui se lancent dans ce sens. Il y a beaucoup aujourd'hui qui font de l'accueil plus pour les seniors. Mais ça peut aussi chercher à toucher des personnes qui vivent la précarité. La restauration collective aussi, elle peut permettre ça par une tarification différenciée, voire en fait la cantine gratuite en fait pour les personnes qui peuvent pas la payer et qui permettent aux enfants d'avoir des repas chauds et complets.
Et de bonne qualité, et même avec du bio de plus en plus, grâce à la loi Egalim. Enfin, voilà, il y a quand même eu des avancées, on va dire, hein, la loi Egalim qui oblige à un certain quota de produits bio ou de bonne qualité, c'est ça?
Oui, et ça vise du coup aussi à soutenir les filières locales, même si ce n'est pas directement évoqué dans la loi, parce qu'on ne peut pas donner de critères géographiques aujourd'hui à cause des marchés publics. Mais en tout cas, c'est bien l'idée de pouvoir encourager les mairies et les autres collectivités à pouvoir se rapprocher des producteurs locaux. C'est très compliqué à mettre en place, mais il y a aujourd'hui, ça se diffuse quand même massivement. Ça reste aussi une petite partie de notre alimentation, mais c'est symbolique aussi, la restauration collective.
C'est ça. Et puis, donc, c'est le plus innovant. C'est vrai que ces caisses, cette idée d'une sécurité sociale alimentaire, ça, c'est vraiment, pour le coup, le plus neuf dans les recommandations. Et alors, Frédéric Pellet, c'est un peu ça que vous faites depuis Brest?
Alors, on ne fait pas de la sécurité sociale de l'alimentation pour l'instant. On fait des groupements d'achat citoyens. On permet quand même de réduire des inégalités qui sont criantes en termes alimentaires. Certains peuvent manger de la bonne qualité, ont le choix dans leur alimentation depuis des années selon des critères géographiques, sociologiques, etc. Et il y a des grands oubliés, c'est les quartiers prioritaires, les quartiers populaires, qui sont effectivement marqués de plusieurs peines. Le fait déjà des difficultés sociales récurrentes dans les foyers. Hein. On sait très bien qu'on est quartier prioritaire politique de la ville quand les chiffres sociaux sont alarmants. Il y a l'éloignement physique, parce que l'offre de alimentaire dans les quartiers populaires a déserté les quartiers populaires, pas de commerce de proximité ou très peu. Et quand il reste quelque chose, c'est plutôt vers du hard discount.
Oui, il n'y a pas de marché, et puis c'est vrai qu'on ne peut pas faire la tournée des fermes le soir. Quoi.
Non, ouais. Non. Et puis de la mobilité par rapport à des problèmes physiques ou pas de voiture. De toute façon, effectivement, beaucoup de personnes dans les quartiers n'ont pas forcément de voiture ou le permis, etc. etc.
Donc, vous êtes dans quel quartier de Brest?
Alors, sur Brest, Vague 29 est à l'heure actuelle sur 5 quartiers. Kerourien, Kerourien, Kélyverzan, Pontanézen, Kéréderne et Kervernard, donc 5 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et on est là-bas une fois par mois. Donc aujourd'hui, nous allons d'ailleurs à Pontanézen.
Vous tournez, c'est ça? Non. Pardon? Vous tournez d'un quartier à l'autre, comment vous faites?
Alors, c'est des groupements d'achat un petit peu autonomes par quartier. En fait, chaque quartier a un petit peu son petit marché, avec sa petite équipe de bénévoles qui tourne, parce qu'il y a une solidarité interquartier qui est intéressante, c'est-à-dire que des personnes de Pontanézen vont aider à Kéréderne et inversement, où il y a aussi cette rencontre qui est importante pour nous. Et donc chaque mois, c'est 5 distributions une distribution mensuelle par mois dans chaque quartier, donc 5 distributions par mois, quoi.
Vous avez combien d'adhérents, de participants pour chaque quartier à peu près à ces groupements d'achat?
C'est variable. On arrive quasiment à 200 commandes maintenant. Pour ce mois-ci, on va être à peu près à 200 commandes sur l'ensemble des quartiers. Ça va d'une trentaine à 50 dans certains quartiers, quoi. Selon le développement, selon plein de choses, quoi. Il y a des quartiers où on est depuis un peu moins longtemps et comme on s'adapte à l'environnement aussi du quartier, il y a des fois des difficultés avec des structures ou autres qui font que le développement est un peu plus difficile, mais on essaye de travailler en toute intelligence avec tous nos partenaires de quartier et c'est eux qui vraiment connaissent le quartier et qui peuvent mobiliser beaucoup les gens. Nous, on y va, mais on est là qu'une fois par mois. Donc, on a besoin de ce travail quotidien avec eux et d'être vraiment en main dans la main sur ces questions-là. Quoi.
Oui, parce que vous, VRAC 29, vous êtes donc une association autonome, on va dire, c'est ça? Et puis, où c'est rattaché à...
Alors, VRAC 29 est né, en fait, il y a 3 ans, un peu grâce, enfin même beaucoup grâce au CIVAM qui est avec nous aujourd'hui, puisque effectivement il y avait déjà des projets des projets qui étaient de mouvements d'achat qui étaient menés par les centres sociaux qui s'appellent les cabas des champs et qui nous ont permis lors de l'action recherche menée par le VRAC national, le CIVAM national pardon, de rencontrer plein de projets et notamment ce projet VRAC qui n'est pas parti de Brest mais qui est parti de Lyon avec Boris Tavernier il y a maintenant 11 ans et en fait on a fait cette rencontre avec Boris et on s'est rendu compte qu'on faisait un peu la même chose à l'autre bout de la France chacun et qu'on allait sûrement essayer de trouver des ponts et c'est ce qui est actuellement fait, toujours en gardant bien évidemment les spécificités brestoises quoi.
Donc vous avez créé VRAC 29, l'association elle-même, sa mission c'est la logistique surtout en fait, c'est ça non?
Alors c'est au-delà de la logistique, on fait beaucoup de logistique, c'est vrai qu'on a un peu mal au dos de temps en temps, mais non, c'est surtout du lien social autour de l'alimentation et de recréer effectivement ces moments conviviaux autour du bien manger, de retrouver une dignité pour certaines personnes qui pouvaient être à l'aide alimentaire ou pas tout simplement pas satisfaites de ce qu'ils pouvaient proposer dans leur famille ou même eux personnellement de manger par défaut et là avoir vraiment un réel choix dans son alimentation et pouvoir manger de la qualité et choisir vraiment ses produits et consommer comme tout un chacun quoi.
Donc vous l'avez un peu dit, les personnes, enfin les acheteurs et les acheteuses sont recrutés par les associations locales, c'est ça, ou les centres sociaux? Comment ça se comment on fait connaître le...
Pas forcément parce que nous on est quand même très présents dans les centres, on participe aux fêtes, ils nous connaissent, ils nous voient. On essaye d'être le plus visible dans les quartiers pour que quand on fait quand il fait beau, on va dehors. Donc le bouche à oreille fonctionne merveilleusement bien aussi. Et c'est vrai que c'est comme ça un petit peu qu'on entre guillemets recrute quoi.
Et après, les personnes elles-mêmes, c'est elles qui choisissent entre guillemets les fournisseurs ou sur un panel que vous présentez, que le CIVAM présente. Comment ça se passe?
Alors nous, on a effectivement, on a la chance quand même. Alors on travaille sur certains quartiers, pas tous les quartiers, parce qu'il y a déjà les producteurs travaillent avec les cabas des champs, mais donc sur certains quartiers, on va quand même avoir nos producteurs. C'est essentiellement des producteurs tout autour de la région. Hein. Il y en a, bon, on a eu la chance d'en avoir beaucoup, pas mal, mais on a des partenariats particuliers avec certains producteurs qui travaillent avec les groupements d'achat depuis plusieurs années. Donc ceux-là, ils sont nus. On a via le VRAC national aussi tout un panel de fournisseurs en épicerie, puisqu'on fait beaucoup de sec, épicerie sec, légumineuse, produits d'hygiène aussi, puisqu'on fait de la produits d'hygiène, un panel de fournisseurs qu'on peut choisir aussi. Il y a aussi on fait des cafés produits avec les adhérents, savoir ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils aimeraient qu'on trouve des noix, ce qu'ils voudraient qu'on trouve. On va choisir ensemble un certain de l'huile d'olive, on va goûter 3 huiles d'olive, on va choisir ensemble, etc. Il y a quand même on essaie justement que quand on parle de où on se rapproche effectivement des projets de caisse alimentaire et que c'est un petit peu de la même famille, c'est que c'est cette démocratie alimentaire, c'est-à-dire que le consommateur devient acteur de sa consommation alimentaire et a le droit de collectivement choisir. Et ensuite, c'est la majorité, c'est la démocratie qui fait qu'effectivement, on retrouve ou on ne retrouve pas ces produits-là dans le VRAC, quoi.
Et le principe d'un groupement d'achat, c'est d'obtenir des prix, des réductions. Qu'est-ce que vous réussissez à obtenir à peu près en moyenne?
Alors déjà, nous, on est habilité aide alimentaire. Ça, c'est important de le signaler. L'association œuvre dans la sphère de l'aide alimentaire. Une aide alimentaire qui n'est pas distributive comme d'habitude, mais vit pas des dons que l'on achète. Mais déjà, nous, on a le prix coûtant. Déjà, on a le prix professionnel qui permet déjà d'avoir un prix très intéressant. Et ensuite, on va beaucoup plus loin que ça, puisque depuis maintenant un an, on a une tarification différenciée qui est financée par l'État, par le Fonds Mieux Manger pour Tous au niveau national, qui nous permet de proposer aux habitants des quartiers prioritaires et des personnes qui ont un quotient familial de moins 800, des moins 10% jusqu'à moins 50% pour des personnes qui ont des très bas revenus ou qui sont aiguillées par des travers sociaux. Donc eux ont 50% du prix coûtant. Donc on arrive vraiment à des prix hyper intéressant. Au-delà de ça, il y a aussi une mixité qui est nécessaire dans nos projets et des personnes qui payent plus de 10% de ce prix coûtant.
Et en termes de logistique, vous arrivez à faire des groupements de transport pour réduire encore les frais ou...
Alors on mutualise avec une épicerie solidaire, effectivement. Après, il y a le réseau brestois et l'intelligence commune et collective brestoise qui fonctionne très très bien. On se connaît, on mutualise un fourgon par exemple avec eux, ce qui nous permet de, eux l'utilisent pas tout le temps, nous on a des tarifs quand même hyper intéressants. Donc tout ça c'est aussi dans la dynamique un petit peu des projets sur l'alimentation et ou autres associatifs, et la vitalité de Brest en termes associatifs est quand même assez reconnue. Oui. On peut travailler ensemble et du coup effectivement trouver des moyens de mutualisation, ce qui nous permet de limiter aussi des coûts, quoi, des frais, quoi.
Oui, pour l'instant, il n'est pas prévu d'élargir le périmètre du VRAC 29 à, je ne sais pas, d'autres quartiers. Ça reste urbain, quoi.
Alors, on est essentiellement, notre cœur de métier et l'essence de VRAC, c'est les quartiers prioritaires. Ça a toujours été ça, mais il y a quand même des expérimentations, et même qui ne sont plus forcément des expérimentations, dans la Drôme, par exemple, d'autres endroits où il y a eu du rural. Nous, on ne va pas forcément aller encore dans le rural. On va déjà l'année prochaine commencer. On est en pourparler avec les étudiants, donc tout ce qui est précarité étudiante qui nous.
Ah oui, ça, on sait que ça augmente. Hein, ouais.
Voilà, ça augmente énormément. Donc on va sûrement monter un vrac université l'année prochaine sur le campus brestois. Et puis il y a tout le sud Finistère, puisque c'est pour ça qu'on s'appelle VRAC 29. Les autres antennes de vrac, puisqu'il y a 25 antennes en France, c'est plutôt des VRAC Lille, VRAC Lyon, VRAC Marseille, mais on n'a pas la taille de ces grandes métropoles. Et nous, on a plutôt imaginé ce projet-là sur un périmètre Finistère, quoi. On pourrait imaginer aller aussi un peu dans le milieu rural. Je pense à Carême, Orlais et d'autres territoires où il y a aussi bien évidemment une grande précarité qui se développe, qui est peut-être plus invisible. Et qui mériterait aussi de s'arrêter. Maintenant, on a 3 ans d'expérience. On essaye de pérenniser déjà l'existence, ce qui est pas simple à l'heure actuelle avec les financements que l'on voit qui diminuent comme peau de chagrin là. Et donc on essaye déjà de bien faire ce qu'on fait. Et ensuite on avancera sur d'autres territoires, bien évidemment, parce qu'il y a cette question-là se pose un peu partout, de toute façon pas que sur Brest.
Oui, bien sûr. Violette Divet, Frédéric Pellet l'a un peu dit déjà, le CIVAM, quel est son rôle par rapport à VRAC 29?
Alors nous, on est là vraiment pour faire le lien avec le monde paysan, puisque ça paraît pas forcément évident, mais on a vraiment, nos administrateurs et administratrices qui ont eu vraiment cette préoccupation de savoir comment toucher en fait davantage de personnes, puisqu'ils étaient bien conscients que les consommateurs des circuits courts aujourd'hui, ça représentait pas tout à fait tout le monde. Donc c'était ça, hein, la base aussi de la réflexion, des premières rencontres avec le Cabas des Champs et donc en fait ça a été beaucoup des rencontres entre paysans et paysannes et des habitants de ces quartiers et en fait nous on est en train d'accumuler pas mal d'outils en fait pour ce que nous on appelle aussi, ce qu'on aimerait en fait, c'est développer une culture commune autour de la démocratie alimentaire.
Ça veut dire quoi ça? Ouais.
Et ben ça veut dire en fait donner les outils aux citoyens et aux citoyennes pour justement avoir plus conscience de comment fonctionne le système. Et donc nous, on vient essayer de faire le lien en fait entre le système agricole, entre l'agriculture et entre l'alimentation. Ça paraît simple comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de structures en fait qui essayent de faire ce lien. Et puis on essaye de participer à ce que Frédéric fait aussi avec VRAC, c'est ce qu'on appelle la connaissance de cause, pour que en fait les personnes elles puissent choisir leur alimentation en connaissance de cause. Oui. Et ça s'invente pas.
Non, faire des choix éclairés, comme on dit.
Exactement.
Acheter tel ou tel aliment parce qu'on sait quel est l'impact de l'aliment sur tout un tas de choses, hein, la santé, mais pas seulement, l'environnement.
Oui, alors c'est faire des choix éclairés, effectivement. Après, il y a beaucoup de pressions qui peuvent reposer aussi sur les épaules du consommateur qu'on met face à toutes ces étiquettes qui sont impossibles à lire. Nous, on essaye aussi de prendre un peu de recul par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup d'injonctions contradictoires. Un des chiffres de l'étude, c'est quand même qu'il y a 5 milliards d'euros qui sont mis, plus de 5 milliards d'euros qui sont mis chaque année sur le marketing et la publicité. C'est 1000 fois le budget de la campagne Manger, Bouger du gouvernement. Donc en fait, c'est un petit peu compliqué après de faire des choix éclairés. Donc l'idée, nous, c'est de prendre un petit peu de recul et de réfléchir à tout ça plutôt à une échelle collective. et justement qu'il y ait des réflexions plutôt à l'échelle d'un territoire ou voilà, du collectif citoyen pour pouvoir agir sur ces questions.
D'ailleurs, à propos d'échelle collective, Frédéric Pellet, vous pouvez nous parler du collectif À Table et du projet de caisse alimentaire, si ça vous concerne.
Alors nous, on est aussi effectivement dans ce collectif, bien évidemment, aussi que le CIVAM d'ailleurs, on a été forcément dans toutes ces réflexions-là, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Et donc là, le collectif regroupe un certain nombre d'acteurs qui œuvrent sur l'alimentation ou travaillent dans les quartiers, avec Vers le Jardin, Au Bout du Jour, la HADE, la MAB, enfin, etc., etc. J'en oublie, je m'excuse déjà auprès d'eux. Et puis la métropole aussi, c'est quand même bien suivi et par la métropole et la ville de Brest. Donc l'idée étant de faire une expérimentation sur 100 personnes sur un territoire donné sur Brest. C'est sur deux quartiers et deux agglomérations après de la métropole, qui sont Genoux et Boire, et de pouvoir expérimenter une allocation de 150 euros par personne, sur 100 personnes, qui serait allouée...
Par mois, d'accord.
Personne, par mois, par personne, pour pouvoir dépenser dans leur alimentation, dans des commerces référencés.
Ouais, ça serait pas n'importe quel commerce. Et ça serait l'argent serait c'est de l'argent, c'est une subvention de la collectivité. Ça viendrait d'où?
Alors, l'idée de la sécurité sociale, c'est quand même de travailler sur les cotisations à la base, que ce soit pour la santé ou que ce soit pour autre. Et donc celle-là, effectivement, il y aurait des cotisations qui seraient variables selon les besoins, selon les
moyens.
Ouais. Donc certains pourraient donner 50 euros, recevoir 150, et d'autres 200 et recevoir 150. Donc là, on est plus dans un acte militant. Quand on donne 200,
c'est
un don qu'on va faire pour participer à ça et de voir ce que ça produit. Et du coup, ensuite, on met tous ces gens-là ensemble. Le but n'est pas que chacun aille faire ses courses à droite à gauche, c'est que ça crée effectivement des collectifs citoyens de ces 100 personnes qui vont ensemble choisir que c'est pour eux une alimentation durable et de qualité, où on peut les consommer, avec qui on va travailler comme commerce, comme projet associatif, etc., etc. Chacun va un peu, mais quelles seront les règles de répartition des adhésions et des cotisations. Voilà, c'est aussi ça. Que chacun effectivement soit autour de la table et puisse discuter de cette alimentation et de comment on va utiliser cette caisse commune. C'est que les citoyens s'approprient finalement cette caisse commune, et c'est ce qui a été fait à l'époque par la santé, dans les années 50. Quoi.
Bien sûr, la sécurité sociale de la santé. Et donc cette caisse alimentaire, ça a commencé. Enfin, quelle est la période, quel est le temps que vous vous donnez?
Alors là, pour l'instant, on est un petit peu dans la période de mobilisation pour l'instant. Qu'on a fait déjà deux réunions publiques, une à Pontanezen et Kéréden, qui sont des quartiers, et à Lambézélec, qui sont les quartiers qui sont sélectionnés pour cette expérimentation. Et on va en faire une à Gouenou le 11 décembre, à 18h, à Gouenou. Et là, on est dans cette phase de mobilisation. Il y aura effectivement aussi une personne qui va être recrutée normalement en janvier pour coordonner un petit peu tout le projet, parce que là on est sur les bonnes volontés associatives de chacun et chacune, mais c'est pas forcément notre mission principale. Donc c'est bien aussi qu'il y ait quelqu'un qui anime un petit peu ce collectif, c'est toujours intéressant. Et ensuite, au courant 2025, on partira sur cette expérimentation qui durera 6 mois.
D'accord. Et Violette, le CIVAM ne participe pas d'autres projets, non? Il y a un projet qui s'appelle Accessible, je crois, ou...
Alors non, Accessible, c'était le nom du projet de recherche dont parlait Frédéric. Ouais. Nous, on essaie de lancer des dynamiques, des démarches, notamment dans le cadre des projets alimentaires territoriaux qui sont portés par les collectivités.
Les fameux PAT.
Pour plus de PAT solidaires et écologiques, et donc qui sont plutôt en territoire rural. ruraux. La question d'accès à l'alimentation, elle se pose évidemment de manière un petit peu différente quand même qu'en ville. Et on est en train de... Donc on travaille déjà avec la Comcom de la presqu'île de Crozon, Aulne-Maritime. On a organisé hier soir une soirée de restitution de l'étude des coûts sociétaux de l'alimentation dans cette optique, en fait, encore une fois, d'ouvrir le débat pour que les gens s'emparent un petit peu du sujet. Et dans l'idée, pourquoi pas de lancer des initiatives concrètes par la suite.
Mmh, très bien. Eh ben, on va s'arrêter là. On vous remercie tous les deux, Frédéric, et longue vie à VRAC 29 et puis au collectif à table. Et puis on retrouvera aussi le CIVAM du Finistère dans un mois. Alors ce serait une toute autre question puisqu'il sera question de loup. Et puis en attendant, on peut réécouter ça sur le site de la radio. Merci.
Merci.